Mesdames, Messieurs, en cette journée de deuil, je voudrais vous demander de vous lever et de garder une minute de silence à la mémoire de M. Samir Kassir. Merci bien. Madame, plutôt que de vous présenter à un auditoire qui depuis longtemps déjà vous connaît et vous admire et dont la soif de vous écouter n'est jamais désaltérée, je tiens d'abord à vous remercier au nom de la Fondation Michel Chiara d'être notre conférencière de ce soir. Le sujet que vous allez traiter, les racines de la démocratie en Russie, tout en restant dans le cadre du domaine qui vous est peut-être le plus familier, touche néanmoins de fort près les problèmes qui occupent et préoccupent les États et les peuples de nos régions. Des développements considérables et brusques sont depuis quelques années venus interrompre le cours resté longtemps inamovible de ce que l'on appelait l'ordre établi. Un ordre trop souvent bâti sur le meurtre et la terreur et dont les stigmates viennent d'être ravivés chez nous sur des blessures non encore cicatrisées. Mais la soudaineté de l'événement ou des événements qui mettent fin à des édifices politiques apparemment inébranlables révèle souvent, après coup, un pourrissement latent rendu invisible par l'opacité des systèmes totalitaires si bien décrits par Hannah Arendt. Mais s'il est vrai que le bon plaisir des princes, l'arbitraire tyrannique des dictatures, l'absolutisme du pouvoir engendrent par leur seul exercice les germes de leur destruction, celle-ci peut à son tour se traduire par d'immenses désordres. Tout l'art de ce que nous nommons démocratie est sans doute de trouver un juste équilibre entre un ordre oppressif et un désordre anarchique. C'est là que la maturité et la sagesse des peuples sont à l'épreuve. Ce que vous allez nous dire, Madame, du grand pays qui a une place si importante dans votre œuvre et dont vous aviez prophétiquement annoncé la mutation, comportera sûrement des analogies et des exemples qui pourront conforter les Libanais dans les espoirs qui leur sont maintenant permis de voir leur petit pays se développer à la manière des grands en une démocratie authentique et durable. Merci.
Messieurs les ambassadeurs, Monseigneur, Mesdames, Messieurs, et je dis toujours quand je suis au Liban, mes chers amis, parce que je me sens en terre d'amitié. Il y a une question en effet qui se pose, c'est de savoir quel intérêt cela peut présenter de parler de la démocratie en Russie quand on est au Liban. Je dirais que ça présente un intérêt considérable, non que la Russie soit, je dirais, un modèle. D'ailleurs, il n'existe pas de modèle en matière de démocratie. Il existe des expériences, et chaque expérience enrichit incontestablement, apporte des enseignements à tous les pays qui sont sur le chemin de la démocratie ou qui ont des démocraties à préserver. J'ajouterais d'ailleurs que les démocraties parfaites, il faut être humble, ça n'existe pas. Des États se pensent en mesure de donner des leçons de démocratie, mais la vérité, c'est que la démocratie se construit à chaque instant et se défend à chaque instant. Alors, la Russie est un cas extrêmement intéressant qui a cette particularité d'être totalement méconnue. Maintenant encore, quand on veut parler de la démocratie russe dans le monde, tranquillement, on cite Kustine et on dit « Ah, les Russes, ils ne sont pas faits pour la démocratie, comme le disait Kustine, ils sont faits pour recevoir le knout, ils n'aiment que la force ». D'ailleurs, l'âme russe n'est pas une âme qui comprend la liberté. Je vous passe tous les commentaires qu'on peut en tirer. C'est absurde. D'abord, l'âme des peuples, c'est une plaisanterie. Il y a l'expérience que l'histoire et le tempérament que l'histoire forge et qui marque les peuples, mais les peuples sont tous construits de la même façon. Ils ont un grand désir de vivre le plus librement possible. Alors, je veux dire, les propos sur la l'absence de sens démocratique des Russes sont évidemment totalement stupides, de la même façon que les jugements qu'on porte sur ce qui se passe en Russie aujourd'hui sont caractérisés par le poids de ces présupposés. Les Occidentaux, principalement, regardent la Russie, se souviennent de ce qu'ils ont lu et concluent, au fond, c'est tout sauf une démocratie. Alors, je voudrais, pour essayer de vous faire comprendre le cheminement de la démocratie en Russie, consacrer un petit moment, je dirais, à montrer ce qu'était, et c'est le titre de la conférence, où sont les racines de cette démocratie, pour essayer de vous expliquer ensuite comment on construit une démocratie en sortant du totalitarisme, ce qui n'est pas simple du tout, car, je dirais, un chemin historique qui mène vers la démocratie tranquillement est une chose, mais avoir été arraché complètement à l'expérience démocratique pendant trois quarts de siècle en est une autre. C'est une expérience unique au monde et la plus dure qui soit. Comment on construit la démocratie au terme d'une expérience comme ça sans aucune mémoire d'autre chose? Et quelles sont les difficultés que rencontre aujourd'hui la démocratie russe? Quel jugement on peut porter quand on le porte tranquillement? Qui n'est pas un jugement de c'est bien ou c'est mal, mais qui est une tentative pour voir, je dirais, quelles difficultés un pays rencontre sur le parcours démocratique. En retenant une fois encore ce qui me paraît nécessaire de rappeler toujours, c'est que la démocratie se conquiert même pour les vieilles démocraties à chaque moment. Alors, premier point, c'est que dire que les Russes ignorent la démocratie est une absurdité. Le chemin démocratique est très ancien en Russie, il a été discontinu, et je vous demande un petit moment de patience pour que je puisse vous l'expliquer. Il a été discontinu et il a pour particularité d'avoir été tantôt une sorte de construction spontanée, tantôt une démocratie véritablement inventée par en haut, par ceux qui avaient la charge de la Russie et dont l'intérêt n'était pas obligatoirement de mettre sur pied la démocratie. Tantôt ça a été un mouvement d'en bas, et au dernier stade, celui qui a conduit à l'étape actuelle, ça a été la rencontre des efforts de ceux qui dirigeaient et d'une société qui aspirait à ressembler aux autres. Alors, un mot juste pour dire que dans cette terre lointaine que nous trouvons, nous autres en Europe occidentale, tout à fait exotique, dans cette terre lointaine, la démocratie a eu de très lointaines origines aussi. Les cités du nord de la Russie au XIIe siècle, qui appartenaient au système hanséatique, étaient de véritables cités démocratiques, sans aucun doute beaucoup plus démocratiques que ce qu'on trouvait en Europe occidentale. Et d'une certaine façon, même la principauté de Kiev, qui était fort civilisée au Xe siècle, plus civilisée que ma France natale, puisque la fille du prince de Kiev avait épousé un roi de France, Anne de Kiev, et quand elle est arrivée en France, elle a ouvert de grands yeux et elle a dit « qu'est-ce que c'est que ce pays de sauvages ?» où on ne lit pas, chez moi il y a des bibliothèques, on parle des livres avec les gens, c'est dire que nos idées sont souvent un tout petit peu déformées quand nous pensons à ce pays. Mais laissons de côté ce passé lointain, car ce passé lointain a été cassé au XIIIe siècle. Le temps des villes démocratiques était un temps tout à fait étonnant, où il y avait une véritable démocratie des cités, un petit peu du modèle sur le modèle de la cité athénienne. Ça a été emporté dans la vague des invasions mongoles, et pendant trois siècles, pendant que l'Europe occidentale évoluait non pas vers la démocratie, pas du tout, mais évoluait tout doucement, ce qui la conduira vers la démocratie au XIXe siècle, pendant ce temps-là, la Russie, arrachée à tout, vivait sur le modèle mongol, ce qui n'est pas exactement un modèle qui prépare la démocratie, c'est un modèle qui a profondément marqué l'histoire russe, qui est un modèle hiérarchisé, autoritaire, presque totalitaire, et dans lequel la société n'avait aucun mot à dire, et évidemment pas le dernier mot. Puis elle s'est libérée au XVIe siècle, et au XIXe siècle, il y a une longue période pendant laquelle la démocratie n'était pas à l'ordre du jour. Elle n'était pas à l'ordre du jour, mais néanmoins, les idées qui ont bouleversé la Révolution française et avant elle, les idées des philosophes, ont pénétré en Russie assez tôt. Elles y pénètrent au milieu du XVIIIe siècle par la grâce d'une petite princesse allemande qui a été la grande impératrice Catherine II, qui tout de même a apporté, elle avait la passion des philosophes français, la passion des idées françaises. C'est le temps où véritablement le monde vivait au rythme de la France. Et elle a importé ses idées à sa cour, à la cour de Saint-Pétersbourg. Alors on peut dire, ça n'avait pas beaucoup de portée à la cour. Si, ça en a. Car les idées ne sont jamais enfermées dans des palais. Elles cheminent, d'autant que cette petite princesse, née dans une petite cour allemande et mariée à 15 ans dans une cour extraordinairement autoritaire, avait une autre passion, c'était la pédagogie. Elle a pensé, à la suite de son cher maître Voltaire, qu'il était bon d'éduquer une société, que rien n'était plus important pour transformer la société progressivement que d'ouvrir des écoles, d'imprimer des livres, d'imprimer des journaux. C'est un siècle d'or pour la presse russe. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de journaux, de revues, de ce qu'on appelle en russe les grosses revues. À travers cela, les idées cheminent. Elles ne s'arrêtent pas du tout aux portes des palais. Et la conséquence même de cet âge d'or de la culture française qui va jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la conséquence de cet âge d'or, c'est que déjà, dans des milieux qui ne sont pas les milieux de la cour, qui ne sont pas les milieux de la noblesse, commence à se créer un mouvement, l'aspiration à l'éducation, l'aspiration à la montée sociale. L'ascenseur social dont on parle tellement en France, c'est une idée qui circule en Russie dès la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe. Les rangs de ceux qui savent, de ceux qui ont un savoir, de ceux qui ont appris s'élargissent, et forcément, dès lors que les rangs de ceux qui ont un savoir s'élargissent, surtout quand ils viennent de milieux peu favorisés, l'aspiration à un changement, et un changement venant d'en bas, se précise. Cela dit, il était difficile de changer la Russie à cette époque, car tout de même la part de la société russe qui était capable d'entrer dans quelques mouvements de transformation sociale était faible. Là, c'était une société non seulement paysanne, mais surtout une société où le servage l'emportait. Par conséquent, la société elle-même, celle qui pouvait générer un mouvement de transformation, restait numériquement faible. Mais en 1861, un souverain, c'est là que je dis qu'il y a des moments où les débuts de la démocratie viennent d'en haut, un souverain remarquable, Alexandre II, et je tiens à le citer parce que, justement, l'effort qu'il a accompli pour démocratiser son pays a été brisé par la terreur, par l'assassinat, le sien, et l'assassinat, je dirais, d'un certain nombre de ceux qui le servaient, et ça n'a pas été gratuit. Il avait émancipé les serfs, il a aboli le servage en 1861, c'est-à-dire que dans une société où le nombre de citoyens était limité, tous les individus sont devenus des citoyens, même si la possession de la terre n'a pas accompagné cette transformation. Mais dès lors qu'on est un homme libre et qu'on ne vous donne pas la terre dont on a besoin pour vivre, eh bien immédiatement se dresse une société qui revendique à juste titre, c'est-à-dire une société qui pense qu'elle a le droit de s'exprimer. Si le terrorisme, ça c'est important parce que vous savez ce que c'est que le terrorisme, si le terrorisme l'a emporté, c'est parce qu'il y a eu une course de vitesse entre un changement venant d'en haut, c'est entendu, mais d'en bas il ne pouvait pas venir avant, un changement venant d'en haut qui allait dans le sens d'une ouverture de la société à la vie politique, d'une ouverture de la société à ses propres revendications et du désir qu'avaient des petits groupes de conserver la bataille pour le changement dans leurs mains. Et ils ont abattu celui qui cherchait à aller plus loin, qui préparait une révolution constitutionnelle aussi, la révolution politique qui eut accompagné la révolution sociale. L'un des enseignements, c'est que la bataille, je dirais, pour la transformation, n'est pas toujours l'œuvre de ceux qui se proclament les plus grands héros de la transformation. Alexandre II ne disait pas « je veux faire la révolution dans mon pays », il disait « je veux que les hommes de mon pays soient des hommes libres ». Et il a été abattu, et l'on peut dire que son assassinat a ouvert, parce que son fils l'a vu agonisant, les membres arrachés par la bombe, un spectacle contemporain, hein, qu'il avait déchiqueté, non pas dans une voiture, mais dans sa calèche, eh bien, son fils, évidemment, a pensé qu'il valait mieux arrêter tout le progrès démocratique qui s'opérait et durcir le système et reprendre le pouvoir tel qu'il avait existé fort longtemps. Il est très difficile de revenir en arrière, une fois que ce genre de mouvement est commencé. C'est d'autant plus difficile que toute l'œuvre des souverains, une fois encore, depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, tendait à éduquer la société et que les élites qui grandissent et qui souvent se recrutent hors des milieux les plus favorisés représentent des cohortes d'individus qui n'acceptent pas les retours en arrière et qui luttent pour la transformation. Alors, ça a conduit dans un système qui a été, croyait-on, verrouillé, où le changement d'en haut, lancé par Alexandre II, a été arrêté par son fils, ça a conduit à un mouvement en sens inverse, c'est-à-dire à la revendication par le bas de la société, par une partie de la société qui n'avait pas un véritable pouvoir politique, ça l'a conduite à reprendre le flambeau de cette avancée démocratique qu'Alexandre II avait engagée. Le mouvement a été repris, il ne faut pas s'en étonner, par des étudiants. C'est là souvent, évidemment, une fois encore, ce sont ceux qui apprennent, ce sont ceux qui ont le sentiment de détenir les clés d'un monde qui se transforme, et le monde de la fin du XIXe siècle est un monde qui se transforme. C'est dans les universités de Russie, c'est-à-dire à la base, qu'à travers un mouvement qui ressemble étonnamment à mai 68 en Europe, aux États-Unis, les étudiants ont commencé à se battre pour les droits de la société, à revendiquer un retour vers l'élan qui avait été lancé en 1861, à revendiquer des droits politiques, et ils se sont trouvés cette fois-ci confrontés à un pouvoir qui a été effrayé. Il avait pensé qu'il pouvait engager le changement 40 ans plus tôt, mais devant une société qui revendique, et devant les éléments les plus dynamiques d'une société, c'est-à-dire la jeunesse, le pouvoir a pris peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a envoyé les étudiants, c'était la pratique dans ce début du XXe siècle, ça se faisait beaucoup un peu partout, il les a envoyés au service militaire, le plus loin possible, dans les conditions les plus difficiles. La conséquence a été que, en Russie, en tout cas, les étudiants se sont retrouvés dans des régions éloignées où se trouvait la classe ouvrière, où se trouvaient des ouvriers, à qui ils ont fait des cours politiques, à qui ils ont commencé à enseigner les idées, alors qui, à cette époque-là déjà, avaient grand cours, les idées de Marx, les idées d'un individu qui s'appelait Lénine, qui n'était pas encore très connu, mais qui malgré tout prônait la révolution. Et on peut dire que ce mouvement démocratique parti d'en bas s'est tout de même imposé. Et il s'est tellement bien imposé qu'il débouche, je dis cela d'une façon un peu fragmentaire parce que je veux en venir au présent, mais je voudrais vous faire comprendre que les choses se sont passées à la base, dans des grandes réunions d'étudiants dans les universités, dans des grandes réunions d'étudiants dans les villes. Et quand ces malheureux étudiants ont été envoyés en exil et qu'on les a chassés des universités, en exil, c'était une fois encore, dans des exils en Asie centrale, dans des lieux où on pensait qu'ils seraient matés par l'armée qui tenait l'Asie centrale, par les ouvriers dont on ne voyait pas comment ils s'entendraient avec les étudiants, quand ils se sont retrouvés là, eh bien, ils ont fait de l'agitation, ils se sont réunis, ils ont organisé des manifestations, c'est-à-dire que la peur a été bien moins forte que la volonté de continuer. Il y a une sorte d'enchaînement qui a malgré tout circulé dans l'ensemble de la société. Et il a été tellement fort qu'en 1903, la Russie a connu quelque chose dont personne n'entend jamais parler. Ça me stupéfie. Il n'y a que l'ambassadeur de Russie qui est là, qui doit avoir appris ça dans ses livres d'histoire, et c'est pas sûr même. Ça s'appelle le printemps politique. Ça a été un moment absolument fabuleux, une fois encore inspiré de l'exemple français, de la campagne des banquets. Comme il n'était pas permis d'organiser des manifestations dans le cœur, dans les grandes capitales, eh bien, on a imaginé de faire des banquets sur le modèle des banquets français du XIXe siècle, de la grande campagne des banquets. Et ça a donné un extraordinaire printemps politique, parce que quand le pouvoir s'est aperçu de ce qui se passait, 6 mois s'étaient passés, tous ceux qui avaient des idées politiques, tous ceux qui reprenaient à leur compte le flambeau que les étudiants avaient allumé, se précipitaient vers ces banquets. Un débat extraordinaire s'est engagé dans un pays que l'on croit inapte au débat, un débat politique d'une très grande ampleur, dont j'ai relu les journaux de l'époque et les archives, c'est très intéressant. La question était, et comment devenir un pays démocratique ? Comment devenir un pays démocratique ? Comment démocratiser la société ? Question très contemporaine qui, en 1903, il faut bien le dire, n'agite pas le monde d'une façon extraordinaire. Il y a des pays qui sont des républiques, mais enfin, le grand débat, après tout, je voudrais vous rappeler qu'en France, le vote des femmes a été instauré par le général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, la question du vote des femmes, dans ces banquets politiques, il en est, où elle était agitée. Tout le monde ne votait pas. On votait déjà en Russie, mais pas tout le monde. Et un des sujets de débat, c'est il faut que toute la société vote, à partir de la majorité, et les femmes aussi. Donc, si vous voulez, il y a eu cette efflorescence extraordinaire d'idées qui avaient été empruntées un peu aux diverses révolutions françaises. 1789, on n'aimait pas beaucoup, personne n'a jamais aimé tellement la suite de la Révolution, mais ça, 1830, 1848, c'est Printemps des peuples. Avec un demi-siècle de retard, la Russie découvre le printemps, et l'on peut dire que la caractéristique de ce mouvement, une fois encore, qui gagne une société intermédiaire, la société que le développement du capitalisme avait fait entrer dans les rangs, si vous voulez, déjà d'une société qui s'exprime jusqu'en 1880, il y avait la société de cour, il y avait des élites intellectuelles, et puis il y avait le peuple. Mais le développement du capitalisme a développé toute une société marchande, une société d'entrepreneurs, c'est-à-dire que les rangs de tous ceux qui estiment avoir droit à la parole s'élargissent, la naissance, la proximité de la cour ne sont plus les critères, et l'on a véritablement un débat social très important avec ce qui est caractéristique de ce pays. En Russie, on aime l'écrit. La Russie est un pays de l'écriture et de la lecture, et même si on croit que c'est un pays qui a été longtemps moyennement éduqué, c'est une erreur. On lisait déjà beaucoup, et beaucoup dans les couches les plus humbles de la société. Le débat va très loin dans les profondeurs sociales et dans les profondeurs géographiques. Dans ce pays immense, tout le pays est secoué par l'idée de ce printemps. Ce printemps, il y a eu quelques tentatives du pouvoir de le réprimer, même... D'une certaine façon, on peut dire qu'une fraction de la classe dirigeante à la veille de la guerre de 1914, elle l'avait déjà fait au moment de la guerre russo-japonaise en 1904, conseillait à un souverain désemparé de faire une petite guerre pour calmer les esprits, pour envoyer la jeunesse là où elle ne pourrait plus discuter. Mais bon, la guerre de 1904 a été perdue contre le Japon et la guerre de 1914 a débouché sur la révolution. Ce que je veux essayer de vous montrer, c'est que quand la révolution va arriver, elle est arrivée, la première, celle de février. La seconde, c'est un coup d'État, ça ne présente guère d'intérêt. Mais la première est une véritable révolution, une révolution populaire, dans un pays certes affaibli par les défaites, par des transferts de population considérables, puisque les troupes allemandes occupaient une partie du territoire, par les difficultés matérielles, par la faim souvent, ce qui... engendre des révolutions, mais en principe, on ne fait pas obligatoirement la révolution pendant la guerre. La révolution est arrivée, vous savez, tous les grands partis, y compris celui que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire Lénine, qui a fait le coup d'État après, en octobre 1917, ces gens-là n'étaient pas sur place. Il n'y avait pas de chef révolutionnaire au printemps 1917. Il y a eu un véritable printemps dans cet hiver qui était si dur. C'est le peuple qui s'est soulevé et qui a fait une révolution qui s'est emparée du pouvoir. On peut ne pas aimer les révolutions, mais celle-là était une révolution authentiquement populaire. Elle a été, et une fois encore, il n'y a pas eu de chef. Les chefs étaient en Suisse, tranquillement. Et Lénine, quand on lui a dit qu'il y avait une révolution en Russie, il était en train de faire une conférence dans un village de la montagne suisse, et il a dit, mais moi je ne veux pas rentrer, c'est en Suisse que j'attends la révolution, chez les gens qui sont prêts pour ça. C'est vous dire que cette révolution a été laissée à elle-même. Mais le plus remarquable, ça n'est pas ça. C'est qu'un coup d'État a été organisé après, justement, par le même Lénine. Un coup d'État fait par une poignée d'hommes, mais une poignée d'hommes qui étaient des maîtres de l'agitation et qui savaient, devant un peuple qui n'était pas organisé, comment on s'emparait du pouvoir. Ils se sont emparés du pouvoir, mais dans quelles conditions ? Dans des conditions où il y a eu des élections à l'Assemblée constituante russe, à la fin de l'année 1917, alors je voudrais tout de même que vous sachiez, dans ce pays attardé, comme on dit, les élections novembre-décembre 1917, alors que les bolcheviks avaient pris le pouvoir, qu'ils essayaient d'empêcher les gens de se rendre aux urnes, la société qui estimait que c'était sa révolution est allée aux urnes avec des taux de participation incroyables. Les taux de participation dont nous nous gargarisons en France n'ont rien à voir avec ce mouvement qui a jeté tout le monde vers les urnes. Et une fois encore, les femmes ont voté. Il y a eu un vote féminin. Toutes les femmes se sont précipitées aussi, alors qu'elles étaient au foyer et qu'elles avaient des hommes qui leur disaient qu'il valait mieux rester à la maison. En d'autres termes, cette révolution, elle a été poussée jusqu'au bout Aller voter, c'est un acte de conscience, de grande conscience, surtout dans un pays où c'est véritablement le premier vote de la nation tout entière. Et qu'est-ce qu'a fait ce vote? Ça aussi, il faut le savoir. La société tout entière, alors que des gens tenaient le pouvoir qu'ils avaient pris par la force, les bolcheviks, qu'ils étaient en train de commencer à pratiquer la terreur, cette société a eu le courage de voter pour les mettre en minorité, en pensant, ce qui prouve que l'idée démocratique chemine vite, en pensant que leur vote aurait raison de ceux qui s'étaient emparés du pouvoir illégalement. Ils ont eu tort. L'illusion populaire a été terrible, car les bolcheviks, ils avaient une vertu, ils étaient organisés. Ils avaient pensé toute leur vie, et Lénine avait parlé toute sa vie, de l'art et de la manière de s'emparer du pouvoir. C'était un disciple de Blanqui et de quelques autres. Et ils ont... vous savez ce que Lénine a dit quand il a été en présence d'une assemblée constituante où cet homme qui était au pouvoir n'avait que 25% des voix. Et on peut dire que les élections, là où il a eu 25% de voix, n'ont pas été très, très convenables. Bon, il a dit, les électeurs ont tort. Nous avons le pouvoir, par conséquent, ils sont en retard de la réalité et le pouvoir ne leur appartient pas. Et ces élections n'existent pas. Et par la force, il a fait fermer l'Assemblée constituante. Mais avant ça, ce peuple, une fois encore, qui n'avait jamais voté, sauf dans des petites élections, si vous voulez, de province, de locale, ce peuple qui s'émancipait tout seul, a organisé des comités des comités de défense de la République qu'il venait de fonder, de la République née de février. Il a essayé de la défendre, il y a eu des comités de défense de l'Assemblée constituante. Des gens tout simples se sont portés en milice, ils n'étaient pas armés d'ailleurs, car les bolcheviks s'étaient emparés, évidemment, des armements, et des casernes et des armements qui s'y trouvaient. Des gens tout simples se sont portés au secours de l'Assemblée constituante, en milice de défense, dont ils disaient, c'est nous qui incarnons la légalité. Et quand on lit les archives, on voit très bien que c'était des gens extrêmement simples, que c'était véritablement l'homme du commun, les femmes du commun. Ça n'était pas du tout des docteurs en sciences politiques, mais ils avaient le sentiment qu'ils avaient voté, que la légitimité était de leur côté et que leur devoir était, au fond, ils ne savaient pas très bien vers quoi ils allaient, mais ils avaient le sentiment que, puisqu'ils avaient dans les urnes donné leur voix à des partis qui étaient des partis démocratiques, leur devoir était de les défendre. Si je cite cette affaire, c'est pour bien montrer que la maturité politique d'une société n'a pas toujours grand-chose à voir avec l'éducation politique qu'elle a reçue. Là, nous sommes en présence d'une société qui n'avait pas reçu d'éducation politique. Les cours d'éducation civique n'existaient pas sous l'Empire. La démocratie n'était pas un programme. On n'apprenait pas ça dans les écoles. C'est vrai, une fois encore, que les Russes grands lecteurs lisaient des auteurs, qu'ils lisaient des tas de livres là-dessus, l'homme du commun aussi. Mais enfin, cette société n'y était pas préparée. Et elle a raisonné véritablement tout entière, avec une sagesse, avec un degré de conscience, un degré de responsabilité collective tout à fait prodigieuse. À part ça, elle n'était pas organisée, et les autres étant organisées, cette assemblée constituante pour laquelle elle s'est battue lui a été enlevée, et on entre dans cette période de 75 ans d'un système totalitaire qui a enlevé la voix à la société. Alors, je passe dessus, mais vous voyez que d'en haut, avec Alexandre II, d'en bas, ensuite, il y a véritablement un mouvement qui pousse la société, et c'est là qu'on ne peut pas dire qu'il existe des sociétés qui soient plus ou moins faites pour la démocratie, qui pousse la société à vouloir assumer ses responsabilités, à vouloir donner de la voix, à vouloir jouer un rôle dans son pays. Bon, pendant 75 ans, ça a été fini. Le système soviétique a véritablement... s'est substitué, le parti communiste s'est substitué à la société, d'ailleurs ça c'était la doctrine de Lénine, qu'il était le parti étant la conscience sociale, la société n'avait pas besoin d'avoir de conscience, et en tout cas pas d'essayer de l'exprimer. Alors, ces 75 ans, je voudrais que vous en ayez conscience. Qu'est-ce que ça représente, 75 ans, dans l'histoire d'une société? 3 générations. Ça veut dire que pendant 3 générations, les hommes n'ont plus su, avant cette démocratie, ces éléments de démocratie qui naissaient, ils étaient spontanés. Ça n'a pas été codifié, ça ne fait pas partie de l'histoire écrite de la Russie. C'était des moments que ce pays avait vécu. Il était impossible à la société de s'y raccrocher, d'autant qu'elle a vécu dans un système terroriste qui lui a enlevé la mémoire de cela, car outre le système terroriste a pris le pouvoir, Il a réécrit l'histoire et rien de tout ça n'a existé. Les gens qui sont nés dans le système soviétique n'ont pas su, jusqu'à il y a 15 ans, qu'il y a eu un printemps des peuples. La plupart n'ont pas su qu'un souverain avait aboli le servage. S'ils le savaient, c'était pas très clair dans leur esprit. Ils n'ont pas su qu'il y avait une assemblée constituante qu'on avait chassée. Ils ont pensé que c'était des contre-révolutionnaires qu'on avait bien fait, qui avaient voulu empêcher la révolution. Donc, une société complètement coupée de tout moyen de connaître son passé, de tout moyen de connaître le monde extérieur aussi. Ce qu'a vécu la société soviétique, c'est dans un temps que nous n'imaginons plus parce que l'histoire va vite. Il y a 20 ans seulement que des sociétés enfermées sont soumises aux moyens de diffusion de la communication par la radio, par tout cela. Mais jusqu'à il y a 20 ans, le système soviétique, ou 25 ans, le système soviétique brouillait les radios, les gens ne recevaient pas la télévision, ils étaient interdits de communication, c'est-à-dire qu'une société entière a vécu en ignorant ce qu'était le monde, ce qu'avait été son passé, ce qu'elle avait pu essayer de construire, ce qui existait dans le monde. Elle était convaincue qu'elle vivait, comme disaient les slogans, c'est en URSS qu'on respire le plus librement, c'est ici que nous sommes le plus heureux. Et ailleurs, que les gens étaient profondément malheureux. Bon, une expérience de ce type, car construire la démocratie, quand on l'a vécu 30 ans plus tôt, 40 ans plus tôt, je dirais que dans tout l'Est de l'Europe, où la démocratie se construit bien, on peut féliciter ces peuples, mais dans tout l'Est de l'Europe, le système communiste n'a duré que 45 ans. 45 ans, c'est deux générations. Ça veut dire que les gens qui vivaient, ils avaient encore une mémoire. Ils n'ont pas vécu la période la plus effrayante, qui est avant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont vécu, c'était pas un système pacifié, mais c'était un système moins terrifiant que ce qu'avait traversé l'URSS. Et dans ces 45 ans qu'ils ont vécu, il y en a 20 où les moyens de communication de masse commencent à s'améliorer, et où ils commencent à avoir ils ont une conscience de leur passé, ils ont une conscience du monde extérieur. Mais les pauvres Russes, les Soviétiques, je dirais, mais là je m'occupe des Russes globalement, ils n'avaient rien. Et un beau jour, de 1989-90, ils se sont retrouvés devant la possibilité de faire renaître la démocratie. Alors là, c'est extrêmement intéressant, parce que cette fois-ci, c'est un mouvement, une renaissance démocratique qui vient d'en haut et d'en bas à la fois. Le système a fonctionné en gros jusqu'en 88-89. Et un homme était à la tête de ce pays, qui s'appelle, vous en souvenez, Mikhail Gorbatchev, un homme communiste d'ailleurs, dont l'idée était tout de même que son pays, qu'il était là pour sauver le communisme, pas du tout pour le détruire, pas du tout pour liquider le système, mais qui a compris qu'il fallait un communisme à visage humain. Quand on commence, la voie des réformes est une voie où très souvent on est emporté par les réformes. La liberté de parole relative qu'il a donnée à son peuple, ça s'appelait la glasnost, c'est-à-dire au fond, c'est ce que nous appelons en France la transparence. Cette liberté relative, un peuple qui a déjà, qui tout d'un coup cherche sur quoi s'appuyer, s'en saisit, et le système a été emporté en l'espace de 3 ans, 1989-1992. Mais là encore, ce que je voudrais que vous compreniez, parce qu'on regarde ça avec on oublie beaucoup de choses, vous savez, la mémoire est très courte. On oublie que, en 1989, les Russes ne savaient pas du tout de quoi il s'agissait. Ils sont entrés dans un monde nouveau, ils avaient un dirigeant qui leur a dit, il faut dire la vérité, il faut tout de même être honnête, il faut cesser de mentir, mais enfin, on ne cessait pas de mentir surtout. La société, une fois encore, c'est une société qui s'est saisie du problème. Ce qui est impressionnant entre 1989 et 1992 en Russie, c'est qu'un peuple qui n'avait pas le droit de manifester, qui n'avait pas le droit de se rassembler à 10 simplement, tout simplement, je dirais, pour crier vive Pouchkine, c'était suspect. Aussitôt, on regardait pourquoi les gens criaient vive Pouchkine. On pouvait se rassembler, en effet, à l'invitation du pouvoir pour crier vive Lénine, vive les responsables, etc. Mais tout d'un coup, cette société, à peine a-t-elle senti la possibilité de se rassembler pour débattre de ces problèmes, qu'elle l'a fait. Ça a été des années prodigieuses. Moi, je me souviens, ça a commencé avec le premier congrès, ce qui s'appelait le congrès des députés du peuple. Ce premier congrès qui a été de députés communistes qui ont été élus, non pas un candidat obligé pour tout le monde, mais des élections qui commencent à être pluralistes. Eh bien, il faut savoir ce que c'est. La société tout entière, ça a été un meeting permanent. Partout, les gens débattaient, sur les lieux de travail. Ils se réunissaient, alors qu'au fond, ils n'étaient pas sûrs que ça marcherait. Il n'était pas sûr, et il savait très bien que si ça ne marchait pas, la répression tombait immédiatement. Mais il y a eu cette volonté de la société de se saisir de la chance qu'elle entrevoyait, l'information ne circulait pas encore très bien, et ça a conduit à l'effondrement du système. Et ici, je voudrais souligner quelque chose dont on n'a pas assez conscience. L'effondrement d'un système totalitaire. Nous avons eu deux grands systèmes totalitaires dans notre siècle, le système national-socialiste et le système communiste. Le système national-communiste ne s'est pas effondré tout seul. C'est la guerre qui l'a tué. La volonté des puissances, ça a été... Le monde s'est mobilisé contre le national-socialisme. Personne s'est mobilisé contre le communisme. Personne n'a pensé que c'était mal. Non seulement ça, mais dans les années 89-92, on ne peut pas dire que qui que ce soit ait aidé les Russes à liquider le système dans lequel ils vivaient et avancer dans la voie de la liberté et à dire nous voulons la démocratie. Au contraire, les chefs d'État qui se disaient qu'est-ce qui va sortir de cette affaire, tout là, n'oublions pas, il y avait la confrontation des armements, ils étaient très inquiets. Mikhail Gorbatchev, qui était tout de même un homme très courageux, il n'a pas fait tirer sur les Allemands, il n'a pas fait tirer sur les Autrichiens, sur les Hongrois qui ont cisaillé la frontière avec l'Autriche. Mais quand il a vu que ça touchait son pays, il a envoyé ses parachutistes en Lituanie, on a commencé à tirer. Alors là, et on a tiré en Géorgie, il y a eu des affrontements, il fallait du courage, car l'histoire pouvait se répéter, et les Russes étaient complètement seuls. Ils n'avaient aucune aide du monde extérieur. Vous savez, quand je vois aujourd'hui comment ça se passe, comment ça s'est passé en Géorgie, en Ukraine, c'est extrêmement sympathique, mais le monde extérieur était à l'affût. Tout le monde était là pour aider. Le peuple russe, ce peuple qui n'a pas, et c'est ça que je voudrais vous montrer, qui a tout seul, je dirais, accompli un petit chemin, d'étape en étape, pour essayer de comprendre ce que ça pouvait signifier que d'être responsable de lui-même. Ce peuple, alors où il a senti que c'était possible, il l'a fait non seulement sans aide extérieure, mais contre le monde extérieur, pratiquement. Bon. Le système a été par terre. En 1992, le 1er janvier 1992, il n'y a plus de système soviétique. Et c'est incontestablement la victoire des Russes, mais aussi de tous les autres, des Lettons, des Lituaniens, des Géorgiens. Tous ces peuples qui étaient enfermés derrière ce rideau de fer ont gagné leur liberté. La liberté gagnée, les Russes se sont retrouvés. Ils ont donné la liberté. Ça aussi, c'est une aventure extraordinaire. La Russie, c'était un empire depuis le XVIe siècle. Et tout d'un coup, vous savez... vous le savez tous, tout le monde connaît l'histoire. Se séparer d'un empire, ça n'est pas simple. C'est même extrêmement difficile. On a quelques regrets. Bon, les Russes ont décidé qu'il fallait se séparer de l'empire, que la démocratie passait, que la liberté des Russes passait par la liberté des autres. C'est ça la vérité. Et si le premier président de la Russie, qui s'appelle Boris Eltsine, a été si populaire, c'est parce qu'il a eu le courage de dire à ses compatriotes, si nous voulons être libres, nous ne pouvons pas continuer à obliger les autres à vivre avec nous. Et un beau matin, c'est lui qui, avec deux compères, le président de l'Ukraine et celui de Biélorussie, a signé l'acte dans une petite datcha de Biélorussie, l'acte qui mettait fin, tout de même, à un immense empire et à l'État soviétique par la même occasion et au communisme. Bon, c'est vraiment une auto-libération. C'est déjà quelque chose qui compte. À partir de là, le mot d'ordre a été... Parce qu'il y avait un programme, c'était pas n'importe quoi, ça n'était pas le désordre pour le désordre, non. Il y avait un programme, c'était construire la démocratie. Alors, question très difficile, qu'est-ce que c'est que cette démocratie? On critique toujours les Russes en disant, là je laisse de côté les autres, en disant, ils auraient dû faire comme les Chinois. Les Chinois, eux, ils ont fait la transformation économique, et bien évidemment, ils gardent intact le système politique parce que ça permet de faire fonctionner l'économie. En tout cas, ça permet de retenir l'ensemble du système. Le choix russe a été exactement l'opposé. Ça a été un choix politique et pas économique. Et on accuse, évidemment, ceux qui ont dirigé la Russie dans ces années-là, c'est-à-dire Boris Eltsine et tous ceux qui l'ont aidé, on les accuse d'avoir sacrifié la prospérité russe, l'avenir russe, à cette volonté folle absolument de faire la démocratie politique en premier. Alors c'est exactement en effet ce qu'ils ont fait. Ils ont laissé le système économique s'effondrer, c'est-à-dire qu'ils ont laissé se faire quelque chose qui est assez regrettable d'ailleurs, il faut bien le dire. Ils étaient confrontés à un système, il faut bien que vous le compreniez, le système soviétique, tout était lié. Ça n'était pas un État, c'était un parti. Le parti prétendait être un État, mais c'était un parti qui, avec le fonctionnement d'un parti unique, faisait tout fonctionner, l'économie, la politique, la vie intellectuelle, tout était dans ses mains. Et il n'y avait pas une seule zone, je dirais, de vie privée. En Hongrie, il y a eu, à partir des années 80, il y a eu ce qu'on appelait le socialisme du goulash, c'est-à-dire le système soviétique a toléré une certaine part de liberté. En Pologne, après 1956, la paysannerie a été décollectivisée, c'est-à-dire qu'il y avait des éléments d'économie privée qui existaient. Dans la Russie, telle qu'elle sort du système soviétique, il n'y a rien. Rien de tout ça n'existe. Les paysans sont collectivisés, les entreprises sont à l'État, il n'existe aucune espèce de secteur, même d'amorce de secteur privé. Alors, le pari de ceux qui ont dirigé le pays a été, d'abord, Eltsine disait, on ne peut pas tout faire. Il faut surtout éviter qu'il y ait un retour en arrière. Il faut éviter que le communisme puisse se réinstaller. Et pour éviter cela, il faut démanteler le système économique tel qu'il l'a créé. Il faut défaire complètement ce système collectivisé, rendre la liberté à l'homme, à son initiative, et occupons-nous de construire la démocratie politique. Alors, bon, il y a eu un résultat fâcheux, en effet, c'est que tous ceux qui étaient en mesure de s'emparer de l'économie, de la richesse nationale, l'ont fait. Et d'ailleurs, ça n'est pas n'importe qui, hein. On dit la mafia. Il n'y avait pas des mafieux qui étaient tapis dans l'ombre attendant qu'on leur laisse s'emparer, qu'on leur permette de s'emparer du pétrole ou du gaz naturel ou du charbon ou de l'acier. Non, c'était les gens qui étaient assez près, qui étaient assez dans le système, assez près de ces sources de richesse, qui se sont trouvés en position de tout accaparer, pratiquement gratuitement, et de devenir les rois du pétrole, les rois de l'aluminium. C'est-à-dire qu'en effet, la richesse nationale du pays est tombée dans des mains privées qui ne sont pas très scrupuleuses, ça, il faut bien le reconnaître. Mais il n'y avait pas de capitalisme. Et là aussi, une des idées, c'est qu'il valait mieux laisser un capitalisme sauvage naître à n'importe quel prix et s'occuper d'abord d'organiser la liberté politique et d'apprendre la liberté politique aux hommes. D'où l'insistance mise, et l'économique, ce qui est vrai, c'est qu'à démanteler le système économique, à démanteler les citadelles économiques, on a en effet coupé la route au retour du système. Il n'y avait plus rien pour que le système puisse renaître. Alors, mais construire la démocratie, ça c'était un sacré pari. Par où fallait-il commencer? Le problème était que la révolution de 1989-92, elle s'est située dans un pays qui n'avait pas d'État. Il y avait eu une vieille tradition étatique, mais elle a disparu en 1917. Il n'y avait pas d'État dans ce pays. Le système soviétique, une fois encore, n'était pas un État. Il ne fonctionnait pas comme un État. Il ignorait absolument toutes les règles d'un État. Le parti était une structure, je dirais, très, très remarquable, très, très efficace, pas économiquement, mais politiquement, mais qui, par la contrainte, tenait la société. Alors, la première, je dirais, tâche de la démocratie, la volonté démocratique, a été de construire l'État. Et pour construire l'État, il fallait d'abord lui donner des institutions. Et on l'a construit des institutions qu'on a empruntées, je dirais que tout le système institutionnel russe a été largement emprunté aux juristes français. Ce sont eux qui ont tenu le haut du pavé pour des tas de raisons. D'abord parce qu'il y avait cette vieille tradition qui, depuis le XVIIIe siècle, et même plus tôt, qui était orientée vers la France, même si par moments la philosophie allemande a tenu le haut du pavé en Russie avant la Révolution. Mais on peut dire que l'empreinte française était très forte et les juristes français sont venus largement présenter un modèle qui est partiellement celui de la Ve République, un petit peu emprunté au système américain, mais en gros, c'est tout de même l'influence française qui a prévalu, les Russes trouvant que notre modèle n'était pas mauvais. Bon, on a construit des institutions qui sont assez imitées, avec une particularité, la Russie restant, même après la perte de l'Empire, un empire pluriethnique. Il y a tout de même, les Russes s'y retrouvent en majorité cette fois-ci, alors qu'ils étaient presque minoritaires en URSS. Enfin, tout de même, il y a toutes sortes de peuples et des peuples de civilisation, de culture, ethniquement très différents, et de niveau de civilisation aussi, puisque ça va même jusqu'aux petits peuples du Nord, qui restent encore très largement, je dirais, des peuples, c'est pas primitifs, mais presque. Le président Chirac, confronté il y a 4 ans, à certains de ces peuples dans ce qui s'appelle l'Académie du Nord, l'Académie polaire à Saint-Pétersbourg, s'est entendu expliquer que c'était les peuples premiers qui lui étaient chers, et au fond il a retrouvé en effet et il a été très admiratif devant cette promotion de ces peuples premiers. Bon, c'est très difficile d'avoir à la fois une société russe qui est très, très éduquée, les peuples premiers, des musulmans qui obéissent, qui sont éduqués, mais qui grosso modo, surtout après 1992, voulaient récupérer leur identité, considéraient que dans l'État fédéral russe, ils avaient droit à véritablement être eux-mêmes. Bon, tout cela fait les bouddhistes, tout ce que vous voulez, tout cela fait, je dirais, un système politique assez difficile à construire. Donc l'originalité de ce système, c'est qu'il fait droit à la différence dans la construction parlementaire, qui est un parlement bicaméral dont l'une des chambres tient à respecter la différence, mais l'important est ailleurs, l'important est dans le fait que, véritablement, ce qui est l'assise de ce système, même si c'est un système présidentiel, l'assise de ce système institutionnel, ce sont deux éléments. C'est d'abord le système parlementaire, et même le président d'ailleurs, tous soumis à l'élection, au suffrage universel, et c'est capital à ce stade de la construction démocratique. Car dans une société où l'habitude démocratique n'existe pas, ce qui a paru essentiel, c'était véritablement d'éduquer la société, de la convaincre de sa responsabilité. Et ce qui est le second élément, c'est la volonté d'avoir une légalité, c'est-à-dire une cour constitutionnelle, emprunter des cours constitutionnelles américaines, françaises, etc., de divers modèles, mais c'est avoir au-dessus du pouvoir exécutif et du législatif une autorité qui dise toujours où est la légalité. Bon, ça n'allait pas de soi, tout cela. Et ça n'allait d'autant moins de soi qu'on avait affaire à une société qui, elle n'avait pas l'habitude de ça. Eh bien, ce qui est frappant, ça c'est le premier acquis de cette démocratisation, c'est la façon dont la société s'est emparée de l'outil qu'on lui donnait, de l'outil électoral. Elle l'a fait avec un sérieux tout à fait saisissant, et en rejetant, mais d'un coup, tous ces préjugés. Moi, j'ai été observateur, pardonnez-moi de me citer, mais j'ai été observateur quand j'étais au Parlement européen. J'ai toujours demandé à aller, j'ai été sur les bords de la Volga, c'est-à-dire en pays d'islam, où on avait encore une structure familiale extrêmement solide. Hein, la façon dont dès les premiers votes, on voyait ça dans les bureaux de vote, le chef de famille arrivait avec toute sa tribu, c'était comme ça sous le système soviétique, puisqu'on votait comme on vous disait. Et les femmes derrière, et les enfants d'ailleurs, les enfants adultes, qui avaient toujours fait comme on leur avait dit, qui tout d'un coup, en une seconde, rejetaient immédiatement l'autorité qui était là et disaient « à la maison je t'obéis, mais ici c'est moi qui décide, ici c'est ma responsabilité, la politique c'est chacun d'entre nous ». Bon, c'est ça, je dois dire, qu'il y a eu. Alors nous sommes dans un pays qui a une passion pédagogique, c'est vrai, les Russes, ils ont toujours eu la passion du savoir. Et il y a une pédagogie de la démocratie à travers les institutions. Alors, esprit fort, nous autres, je fais une critique nationale, nous autres Français, dans notre presse, nous nous moquons des élections russes. Et nous disons, qu'est-ce que c'est que ces élections? Monsieur Poutine est élu avec 70% de voix. Et les gens, on ne se rend pas compte. Nous ne nous rendons pas compte que c'est un peuple entier qui a appris que chaque voix comptait. Et qui le fait presque religieusement. C'est tout à fait émouvant. C'est ça, je dirais, la marche vers la démocratie. C'est la prise en main du destin. Et cette pédagogie, c'est ça que la carte que le pouvoir a jouée. Alors ça, c'est, je dirais, une première victoire. Et la légalité des élections. J'ai observé plusieurs élections sur le terrain. Élections présidentielles, élections législatives. Et puis je suis allé observer des élections locales. Ça, on n'avait pas... Il n'y avait pas de droit à les observer, mais j'y suis allé pour voir. Je dirais que les illégalités, là encore, les esprits forts rient. On n'est pas tellement plus qu'ailleurs. Tout simplement parce que tous les citoyens, y compris les communistes, hein, pour qui c'était la grande défaite, même ceux-là prenaient au sérieux l'élection. Et au fond, je dirais que les choses dont on pouvait se plaindre n'étaient pas innombrables. Il n'y a pas eu d'élection truquée, il ne faut pas le raconter. Il n'y a pas eu d'élection truquée parce qu'il y a eu une volonté sociale partout, d'être honnête. Alors, l'éducation par les institutions, elle est très importante. Si ces institutions sont stables, si l'on regarde maintenant, 13 ans se sont écoulés. Et en 13 années, les élections ont toujours été à la date prévue. Une seule fois, il y a eu une rupture dans cette régularité parce que Le conflit entre le Parlement et le Président en 1993 a conduit à une crise extrêmement grave, la seule crise de la post-soviétique, et on a tiré sur le Parlement a été dissous par la force. On aurait pu penser, après cette épreuve qui a traumatisé la société, on aurait pu penser qu'on repousserait les élections, parce que c'est dangereux des élections dans ces conditions. Eh ben non, elles ont eu lieu aussitôt après, le Président a eu le courage de les faire, et elles se sont passées d'une façon parfaitement normale avec une société qui est allée aux urnes parce que précisément le cours normal de la démocratie reprenait. Alors, ça c'est un aspect. Le second aspect, c'est l'État. Parce que l'État, ce ne sont pas que les institutions. L'État, c'est celui qui assure l'ordre public, c'est celui qui fait fonctionner l'ensemble des activités, malgré tout. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'État. En 1989-92, il n'y avait qu'un parti. Le parti, il existe toujours. Il a des électeurs, personne ne les empêche de se présenter. À un moment, Boris Eltsine a souhaité juger le parti pour marquer, véritablement faire le procès du passé. Et puis, on lui a dit que ça, il fallait pas. Ça, c'est une chose que je voudrais souligner, d'ailleurs. La volonté russe, au fond, à aucun moment de ne régler des comptes. C'est aussi un sens de la responsabilité extraordinaire. Dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est, on a ouvert les comptes, on a ouvert les registres de la Stasi en Allemagne, c'est-à-dire qu'on a permis aux gens de savoir qui les avait dénoncés, qui avait dénoncé leurs parents, qui s'était mal conduit. L'État russe a voulu éviter cela. Il a voulu construire la démocratie dans une sorte de réconciliation, même si ça n'est pas très simple. Mais l'idée sous-jacente a été qu'assez de sang avait été versé et qu'on ne pouvait pas recommencer. Que si on se lançait une seconde dans une réévaluation des responsabilités, alors la société fraternelle ne serait pas construite. Je dis cela parce que c'est très important de savoir que dans la marche vers la démocratie, il y a un moment probablement d'union où il faut... On peut peser les responsabilités quand tout est gagné, mais il y a un moment où il est nécessaire que les hommes soient côte à côte et qu'ils oublient leur ressentiment pour essayer de sauver ce qui doit être de la construction qu'ils ont engagé. Alors, cet État, c'était difficile à construire, parce que, d'abord, la société n'a pas très bien compris quelle était la différence entre l'État et le parti. Ça s'appelle le pouvoir, dans toutes les circonstances. Mais le parti, il agissait dans l'illégalité complète, alors que l'État avait respecté des règles de légalité. Il y a eu une pédagogie, véritablement, de cet État qui ne peut être que légal. Et c'est à cela que sert, d'ailleurs, que sert la Cour constitutionnelle. Pas seulement à la Cour constitutionnelle, il y a aussi une commission qui s'occupe des grâces, c'est-à-dire que le système judiciaire est aussi sous l'autorité, véritablement, sous une autorité morale qui rassure la société, qui lui montre que l'arbitraire ne peut plus exister. Dans toute société, il y a une part d'arbitraire, je ne suis pas du tout angélique, mais la volonté a été de démontrer que tout arbitraire, on pouvait se plaindre, qu'on peut toujours se tourner vers une autorité supérieure qui essaiera équitablement de voir si l'on a été bien ou mal jugé, si l'on mérite d'être, si l'on doit être gracié. Tout ça, ce sont des institutions qui sont nées en l'espace de 2-3 ans et qui sont toujours là. Ça, j'y insiste, parce que quand on dit ça, elle tourne mal, cette démocratie, non. Tout ça fonctionne et les élections fonctionnent. Et il ne sert à rien de dire la prochaine fois, on truquera les élections présidentielles parce que le président... va achever son second mandat, il n'a pas droit à un troisième mandat. Et pourquoi on décide ça? Pourquoi on décide que lui, il va truquer la Constitution? Ailleurs, on ne truque pas la Constitution et le soupçon est toujours là. Or, précisément, la construction russe a visé à effacer le soupçon. Je vous dirai tout de suite que j'y reviendrai, que le président russe, qui en effet n'a pas droit à un troisième mandat, dit avec force tous les jours, mais tous les jours, je ne serai pas candidat une troisième fois parce que, et je ne veux pas qu'on change la Constitution. Quand on le dit tous les jours, quand on dit une fois des choses comme ça, on peut se dire qu'on passera dessus, on oubliera. Mais quand c'est répété tout le temps, très difficile de soupçonner que c'est pour faire exactement le contraire un beau jour. Il y a une insistance constante sur la légalité des institutions. Alors, cet État, il y a deux problèmes. C'est que il a pris la succession d'un système où dominait la corruption. Le système soviétique était extrêmement corrompu. D'ailleurs, il y avait une vieille tradition de corruption en Russie. Gogol raconte ça très bien. Il y a beaucoup de sociétés où il y a de la corruption. Et par ailleurs, je dirais que c'était un état de la violence. Et la violence étatique entraînait une violence humaine. Dans les profondeurs, les hommes étaient violents parce que l'État était violent. Comment ? Alors, Comment trouver un équilibre entre l'ordre nécessaire, la mise en ordre, vraiment l'instauration d'une société de l'ordre public, et puis pas trop de dirigisme. Il faut un État fort pour mettre fin à la corruption. Il faut un État fort pour réfréner la violence sociale. Alors cet État, il s'est trouvé dans une situation d'autant plus difficile qu'il n'avait pas d'argent. Toute la richesse publique a été captée par des personnes qui lui ont enlevé. Les structures étatiques n'existaient pas, c'était des structures du parti. Il a fallu tout créer. Les individus n'étaient pas habitués à payer des impôts, puisque les impôts leur étaient prélevés comme ça à la source, d'ailleurs sur le trois fois rien qu'ils gagnaient, ils ne savaient pas ce que c'était. Il fallait instaurer un système fiscal. Et il fallait d'autant plus instaurer un système fiscal où les gens paieraient des impôts, que précisément il fallait qu'ils aient le sentiment que ce sont eux qui font fonctionner l'État, et pas tout simplement qu'ils fonctionnent on ne sait pas comment. Il y avait une pédagogie aussi de la part que l'on a dans le fonctionnement de l'État. Il fallait, pour ça, il fallait des lois. Et ça, c'était très difficile, parce que dans ces débuts de la démocratie, il y a eu une difficulté extraordinaire entre le Parlement et le Président. Le Parlement n'avait pas, où il y avait encore beaucoup de communistes. Le fait qu'on n'a pas, une fois encore, pensé à l'Allemagne nationale socialiste, elle s'est évaporée complètement en 1945. Elle n'a plus existé. On pouvait construire sur la table rase la démocratie. Mais dans cette Russie qui ne voulait pas régler de compte, les communistes se présentaient aux élections. Ils ont été forts pendant des années. Eux et leurs alliés ont bloqué le système parlementaire, n'ont pas voulu voter des lois pour restaurer la propriété privée. Et du même coup, comment est-ce que vous développez une petite société, les classes moyennes, s'il n'y a pas de propriété privée? Ils ne voulaient pas voter de loi fiscale, ils ne voulaient pas voter un code fiscal, précisément pour empêcher l'État d'exister. Il a fallu que cet État progressivement avance sans éliminer les adversaires, en convaincant, et ça n'est que ces dernières années qu'on a réussi à voter un code fiscal, un code de la propriété, c'est-à-dire que ce sont des conquêtes récentes qui ont mis du temps à s'instaurer et qui permettent de faire fonctionner l'État. Ce retard explique un certain nombre, je dirais, de dysfonctionnements, mais en même temps, il a une vertu, c'est que personne n'a été tué, personne n'a été dénoncé, personne n'a été éliminé. Tous ceux qui voulaient se présenter aux élections et pour qui des gens voulaient voter ont pu être élus, ont pu se présenter. C'est dans la paix civile que cet État s'est construit. Et la paix civile rend beaucoup plus difficile, quand il n'y a pas d'épuration, quand il n'y a pas de règlement de compte, rend beaucoup plus difficile, je dirais, l'instauration de la démocratie. Mais la démocratie, telle qu'elle fonctionne actuellement, même si elle est imparfaite, elle est passée par des voies démocratiques, par celles qui ont respecté la volonté de tous, et pas seulement la volonté des bons, de ceux qui n'étaient pas communistes, etc. Bon, l'État s'instaure, alors il a des faiblesses. La corruption, c'est vrai, elle est toujours là, le président lutte contre elle, mais elle existe. Alors, l'État, il faut aussi une société pour soutenir l'État. Cet État, il faut que la société ne soit pas simplement une société de, je dirais, informe. Il faut une véritable société avec des classes moyennes qui n'existaient pas. Une société civile qui se fonde sur ceux qui ont l'esprit d'initiative, sur ceux qui exercent leurs responsabilités. Et là aussi, on a un problème très difficile. La société russe, qu'est-ce que c'est? Bon, d'abord, c'est une société qui vieillit. Ça, c'est une tragédie. Une société qui a peu d'enfants. C'est son grand drame. C'est une société dont une très grande partie de la population, il faut le comprendre, une grande partie de la population est âgée. Elle a vécu toute sa vie dans le système soviétique. Ce système s'est effondré, mais elle a souffert pour ce système. Elle a travaillé pour ce système. Et un beau jour, on lui a dit que ce système était mauvais. Est-ce que vous imaginez la douleur de gens dont toute la vie difficile est tout d'un coup niée, ou en tout cas condamnée, et qui sont confrontés à un monde qui n'est pas celui qu'ils connaissent, un monde où il faut prendre ses responsabilités, on est seul pour s'organiser, pour se défendre. Bon, cette part de la société âgée, elle est dans un certain désespoir, elle est pauvre, c'est incontestable, c'est une société qui se hiérarchise financièrement, les gens plus jeunes qui ont un meilleur niveau d'éducation sont capables, je dirais, de gagner véritablement leur vie, les places dans la société, tout va très bien pour eux, ils s'arrangent très bien. Le niveau, l'écart entre eux, la partie âgée de la société qui n'a pas pu monter dans ce train d'un monde nouveau, et la partie jeune, l'écart matériel, l'écart aussi des mentalités va grandissant incontestablement. Les gens âgés, les pauvres retraités, ils attendent de mourir tranquillement et ils n'ont pas beaucoup d'espoir dans le monde dans lequel ils sont. Bon, c'est avec ça qu'il faut construire la démocratie, c'est-à-dire qu'il faut aussi essayer de miser sur ceux qui sont les plus dynamiques, c'est essayer d'encourager les plus dynamiques et essayer de ne pas complètement abandonner les autres. Là, il y a certainement quelque chose que l'État russe n'a pas été en mesure de faire très bien, mais il le reconnaît. Il n'a pas eu assez de filets sociaux pour la partie la plus âgée. Mais là aussi, c'est très intéressant, cet esprit démocratique, cette éducation sociale est en train de gagner du terrain. Vous savez qu'il y a peu de mois de cela, les retraités russes ont envahi la rue. Bon, c'est une révolution des esprits, ça. Vous comprenez, une fois encore, manifester, ça ne s'est pas fait pendant 75 ans, sauf mobilisé par le pouvoir, par obligation. On ne pouvait pas manifester pour quelque chose, on ne pouvait pas manifester pour ce qu'on voulait. Les gens qui sont sortis dans la rue, ce sont ceux qui sont véritablement les produits les plus soviétiques, les homo sovieticus du passé, ceux qui n'ont jamais manifesté autrement que mobilisés, ceux qui n'imaginaient pas qu'on descende à la rue. Ils sont descendus à la rue pour des motifs matériels, certes, parce qu'on leur avait supprimé des avantages en nature qui leur permettaient de survivre, mais c'est aussi beaucoup de militaires, d'ailleurs, parce que les retraités de l'armée étaient aussi en train de... Ils ne supportaient pas le changement de système, ils ne supportaient pas la professionnalisation de l'armée, ils ne supportaient pas que l'armée ne soit plus à l'honneur, ils ne supportaient pas aussi qu'ils aient des pensions avec lesquelles ils ne pouvaient pas vivre, alors qu'ils étaient tout de même ceux qui tenaient à bout de bras le pays quelques années auparavant. Mais le fait important, c'est qu'on a eu des manifestations de masse d'une partie âgée de la société, cette partie qui ne va jamais dans les rues. Alors, nous avons les yeux fixés sur le Maïdan ukrainien, nous avons les yeux fixés sur le Parlement géorgien, nous avons les yeux fixés sur ce qui se passe en Asie centrale. Et nous n'apercevons pas qu'en Russie, les gens aussi commencent à aller dans la rue. Et ils commencent à aller dans la rue parce qu'ils sont politiquement conscients. Je dirais que ça, si on cherche à mesurer, il y a des sondages pour ça qui sont très bien faits d'ailleurs, si on cherche à mesurer le progrès des consciences, car la démocratie, c'est d'abord le progrès des consciences, c'est le sentiment qu'ont les individus qu'ils doivent prendre en main leur destin. 75 ans, ils ne l'ont pas pris. 75 ans, ils ont vécu dans un système qui leur a dit « Ne vous occupez de rien, vous êtes très heureux, et surtout, vous vivez comme on vous le dit. » Et personne n'aurait osé lever le petit doigt. Et tout d'un coup, même ceux qui sont les purs produits du système, eh bien, ils sont allés dans la rue. Et ils sont allés dans la rue collectivement, c'est-à-dire pour dire « Nous sommes malheureux ». Ça n'est pas les défilés aimables des lycéens en France qui vont dans la rue, ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas très bien ce qu'ils veulent dire. Non, c'est une sortie de gens pour qui tout d'un coup, la découverte du mouvement collectif est d'une importance capitale. Alors, tout cela indique que la société, j'ajouterais que les petites entreprises commencent à exister en nombre important, l'économie russe vit. Pas seulement, je dirais, de la vente du pétrole à l'étranger, elle vit de ces petites entreprises, elle vit de ces gens qui ont une vision économique spontanée, parce qu'ils n'ont pas été éduqués à l'économie. Et l'économie russe ne va pas mal. Elle va, franchement, les gens ne sont pas très, très bien pourvus lorsqu'ils sont dans la catégorie pauvre, et ça représente la moitié de la population, je ne veux pas vous mentir. Mais en même temps, c'est une économie qui fonctionne. C'est une économie qui exporte du blé aujourd'hui, ce qui ne s'est pas vu depuis 1913, où les petits entrepreneurs savent faire énormément de choses et où les gens travaillent, ce qui est tout à fait considérable. Alors là aussi, on rit d'eux. On dit, ils exercent trois métiers à la fois. Les professeurs d'université sont chauffeurs de taxi. Oui, mais c'est le début de l'entreprise privée. C'est la prise en main de son destin économique. Et je dirais que tout ça fait une société civile. Et quand les retraités sont dans la rue, c'est une société civile qui est dans la rue. Ce ne sont pas des individus perdus qui n'ont pas le sens social. Le tissu social est en train de se composer avec les plus démunis et avec les autres. Alors, c'est le produit de 13 années d'un système qui a voulu que dans la paix sociale, dans la confiance dans les institutions, les hommes apprennent à vivre. Et puis alors, il y a tout un monde. Alors, deux points très importants dans cette éducation sociale, c'est l'information. Dans une société où il n'y avait pas d'information, la télévision russe, c'est pas exactement, elle n'est pas très, je dirais pas très, je ne dirais pas libre. Elle est assez conformiste. Mais pour dire la vérité, ce qu'on peut appeler la pensée unique ou le confort intellectuel, ça existe dans d'autres sociétés qui sont très contentes de leur démocratie. Et je dis, et honnêtement, la télévision russe n'est pas beaucoup plus mauvaise que la télévision française. Elle est assez uniforme, mais la nôtre non plus n'est pas glorieuse. Je ne suis pas sûr que la télévision dans de vieilles sociétés soit un outil de réflexion. Ça pourrait être un outil prodigieux, c'est souvent un outil de conformité intellectuelle. Alors, je n'irai pas chanter la gloire des télévisions, des vieilles démocraties contre la télévision russe. Ça me paraît assez voisin. Mais la presse russe, il y a une presse fantastique. Alors, d'une liberté d'esprit, d'une liberté de ton extraordinaire. Je la lis tous les jours. Je peux vous assurer que les bras m'en tombent souvent à voir comment s'expriment les journalistes. Et les journalistes libres, c'est l'honneur d'un pays, c'est l'honneur d'une profession. Ce sont ceux qui, tout de même, et vous le savez tous, ce sont ceux qui, malgré tout, sont les plus sensibles à l'humeur de la société, les plus sensibles aux problèmes d'une société. Alors, la presse, elle existe. Il est inutile de dire le contraire. Et le pouvoir n'essaye pas de la museler. Bon, il se fâche, il n'est pas content, mais vous pouvez lire à longueur d'année des articles qui disent Monsieur Poutine est un incapable, ce qu'il fait ne vaut rien du tout, d'ailleurs il a tort partout, etc. Ça laisse mesurer, je dirais, le changement dans un pays où, une fois encore, il n'y avait pas de presse. Il y avait la même chose dans des journaux qui n'existaient pas. Et puis alors il y a toute une vie associative qui se développe, dont le modèle, ce sont les comités des mères de soldats qui se sont forgés pendant la guerre de Tchétchénie. Mais bon, maintenant, il y a ces comités de mères de soldats qui existent à travers tout le pays, ce sont des femmes qui prennent la responsabilité parce que l'armée russe a de très mauvaises habitudes de violence, mais enfin, c'est une armée qui se professionnalise à l'égard de ces jeunes, et le pouvoir, parfois, se sert de ces jeunes. Il s'en est servi en Tchétchénie, il s'en est servi en Afghanistan, d'une façon que la société réprouve, ben ce sont des femmes qui ont organisé ces comités, qui sont des bénévoles, et qui dénoncent à la fois tous les errements du pouvoir en matière de politique étrangère, tous les errements de l'armée dans les rapports avec la jeunesse, même quand ce ne sont pas les enfants qui sont en jeu. Ce sont des comités qui ont commencé à la fin du régime soviétique, qui se poursuivent et qui indiquent la voie dans laquelle s'oriente ce pays, c'est-à-dire une activité sociale, une certaine vie associative, pas exactement au sens où nous l'entendons. Bon, il y a des associations sportives, tout ce qu'on voudra, mais une vie associative autour des responsabilités politiques qui ne laisse pas le travail, la protestation aux partis politiques. Et ça aussi, c'est parce que c'est tellement différent de ce qui a existé que ça permet de mesurer véritablement la transformation sociale. Et quand on voit les sondages, on se rend bien compte que la société, les sondages sont, une fois encore, les instituts de sondage russes sont très bons, que la société, quand on l'interroge sur ce qu'elle veut, bon, elle veut plus de bien-être comme tout le monde partout, mais apparaît tout le temps ce thème de l'attachement à ce qui est acquis, c'est-à-dire à la paix sociale, aux institutions qui fonctionnent, aux institutions qui sont régulières, au respect de la Constitution, tout thème qui, il y a 13 ans, n'avait pas existé dans la cervelle des mêmes individus qui répondent. Alors, pour finir, je dirais que, sans doute, y a-t-il de défauts dans ce système. Il n'y a pas de doute. Je l'ai dit tout à l'heure, la corruption, elle est là. Elle est endémique et ça ne disparaît pas d'un seul coup. Ça ne disparaît pas d'un seul coup parce qu'il y a de très vieilles habitudes et parce qu'aussi, je dirais que cet accaparement de la richesse nationale par une série d'individus entraîne la possibilité, en effet, d'acheter beaucoup de choses, d'acheter les gens, d'acheter des positions. Mais c'est un système qui va aller s'épuisant, il n'y a pas de doute, parce qu'on ne peut pas être tout... Il y a un moment où l'accès des individus au poste, le fonctionnement normal d'un système, interdit à la corruption de prendre trop d'ampleur. Mais ça, le pouvoir en est conscient. Un problème, alors je dirais très grave, c'est le problème de l'absence d'une relève politique. Et ça, c'est un problème très curieux, parce que d'un côté, on a une société qui a pris son destin en main, qui est passionnée par ce qui se passe, et d'un autre côté, il y a eu, il y a 10 ans, toute une jeunesse politique qui se levait, des hommes politiques de grande qualité. Et quand on regarde aujourd'hui, on se dit, mais où sont-ils? Ils sont pas au Parlement, déjà, le Parlement est monocolore, mais il n'est pas monocolore parce qu'on a truqué les élections. Il est monocolore parce que tous les gens qui représentaient une volonté d'avancée libérale sont partis dans le monde des affaires. Il y en a maintenant qui sont en train de devenir conseillers du président d'Ukraine, tout sauf chez eux. Alors ça, c'est un problème considérable. C'est-à-dire qu'il y a une élection présidentielle en 2008. Déjà, le Parlement, cette fois-ci, n'a pas eu de candidat véritablement différent. Une démocratie suppose un grand débat démocratique. Eh bien, il n'est pas parce que le business, pour employer le mot qui est cher aux Russes, attire les élites, parce qu'il y a une certaine désaffection des élites. Je dirais que je soupçonne que la jeunesse russe, elle se dit, ça y est, la démocratie est gagnée, pas la peine de s'en faire, occupons-nous maintenant de la vie matérielle. Et ça entraîne évidemment un certain vide politique. Ça, c'est le grand problème de la Russie. Dans 2 ans et demi, il y a une élection présidentielle. Quand les Russes regardent à l'horizon pour savoir qui pourrait être candidat, ils disent, il n'y a personne. Il n'y a personne parce que tous ces gens dont on a pensé qu'ils seraient des candidats ont disparu dans la nature, disent, ça ne m'intéresse pas, je veux faire autre chose. Au point, et c'est extraordinairement curieux, que récemment, les Izvestia, grand journal qui est admirablement écrit et d'une haute tenue intellectuelle, ont publié une pleine page d'entretien avec M. Mikhail Gorbatchev, tout de même chassé du pouvoir il y a 13 ans, hein, et qui en a une certaine amertume, à qui on disait, écoutez, il y a des gens qui espèrent que vous voudrez bien vous présenter, parce qu'on ne sait pas qui se présentera. Et alors il dit, non, moi j'ai 75 ans, et je le ferai pas, ça m'intéresse plus. Bon, mais ça c'est un vrai problème, il n'y a pas de plaisanterie. Il y a une certaine dépolitisation par sentiment que le but poursuivi est atteint, et qu'au fond, maintenant la démocratie peut tourner toute seule. Il y a une société civile, mais la dépolitisation des élites est un fait certain. Et il appartient, mais à qui ? Au président, qui ne peut pas tout seul animer la société. Peut-être appartient-il aussi à la société occidentale, d'aider la Russie à remobiliser à certaines à la coopération occidentale, d'aider la Russie à repolitiser ses élites, parce que un pays ne peut pas vivre sans avoir une vraie opposition. Il faut avoir une opposition, sans avoir une relève qui se dessine. Alors ça, c'est un problème, et je terminerai sur le dernier problème, qui est le problème de l'alternative modèle révolution des roses, oranges, tulipes, etc. Bon, c'est un drame pour la Russie, il faut bien en être conscient. La Russie voit les peuples qu'elle a libéré, qu'elle tenait sous sa coupe, mais à qui son président en 1992 a véritablement dit « prenez votre liberté, personne ne les en a empêchés ». Elle les voit aujourd'hui se retourner dans des révolutions dites démocratiques, se retourner dans un vrai mouvement anti-russe. C'est incontestable. Enfin, quand la Géorgie dit qu'elle veut aller dans l'Union européenne et dans l'OTAN, c'est pas simplement pour la beauté de ses institutions, c'est parce qu'elle dit c'est là qu'on est bien protégé des Russes. Quand l'Ukraine dit nous voulons aller dans l'Union européenne et dans l'OTAN, c'est pour faire une frontière européenne et OTAN qui sépare ces pays de la Russie. Bon, c'est une tragédie, étant donné que la Russie, à l'heure de la grande révolution de 1992, a pensé pouvoir construire une sorte de Commonwealth avec ses peuples et vivre en paix avec eux en ayant une zone d'influence. Il n'y a pas à le dissimuler, mais quelle grande puissance n'essaye pas d'avoir une zone d'influence à ses frontières, hein. Après tout, la doctrine Monroe, c'était un petit peu ça, hein. Personne dans la zone qui nous intéresse, c'est notre chasse gardée. D'une certaine façon, la Russie voulait non pas avoir sa chasse gardée, puisque les États-Unis ont pu faire des bases en Géorgie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, etc. La Russie n'a pas été jusqu'à les en empêcher. Mais elle pensait vivre une vie commune, d'après l'Empire, et dans la sérénité. Or, cette vie commune est en train de s'effriter. Et non seulement elle s'effrite, mais l'idée qui surgit dans ces États qui ont quitté l'orbite d'influence de la Russie, pas dans ces États, parce que ce qui se passe, mais on n'a pas le temps d'épiloguer là-dessus, ces révolutions des tulipes, oranges, etc., elles sont d'un type particulier, elles ne ressemblent ni à ce qui s'est passé en Russie en 92, je dirais ni au mouvement solidarité polonais des années 80, elles sont d'une nature particulière, car il y a là des acteurs extérieurs, qui sont les ONG, qui incontestablement se sont donnés pour mission de pousser ces pays vers la démocratie selon un modèle qui est le leur. Il y a là un jeu d'une nature différente. Et dans ces pays-là, on se dit que les ONG, et ces ONG, est-ce qu'il y a une internationale des ONG ? Je ne sais pas. Mais c'est une question très intéressante qui mérite véritablement que l'on l'étudie de près. Ces ONG ont aussi l'ambition, en Russie, d'organiser une révolution, je ne sais pas de quelle couleur elle serait, c'est-à-dire d'amener les gens sur la place rouge, 2 millions de gens sur la place rouge, ou 3 millions de gens sur la place rouge, pour chasser les gens au pouvoir et repartir avec quelqu'un d'un pied nouveau. Premièrement, il n'y a pas d'élite de rechange pour l'heure, donc ça rend très difficile l'opération. Deuxièmement, les Russes sont des gens prudents. Ils savent que les mouvements populaires, comme ça, 2 millions de personnes dans les rues, Quand ce sont des retraités, ce sont des mouvements calmes. Mais quand ce ne sont pas des retraités, ça peut aboutir là où ça les a conduits, à l'horreur, à 75 ans de communisme et à des dizaines de millions de morts dans les camps et ailleurs. Alors, eux, ils ont un grand désir, c'est de ne pas faire ça. Et je dirais que le grand problème de ce pays, la démocratie permet tout. Ça, c'est enfin le système. Une fois encore, c'est pas une démocratie parfaite, c'est une démocratie qui, chaque jour, se gagne. Mais personne n'aurait l'idée d'empêcher des ONG d'agiter des gens, de préparer une révolution verte, violette ou tout ce qu'on voudra. Le pouvoir ne le fera pas. Mais les Russes savent tous que ça peut les conduire, eux, à un désastre absolu. Et dans l'état de dépolitisation, d'une certaine faiblesse du sentiment politique, la société est tellement convaincue que tout va bien, que ça c'est acquis. Le reste, les problèmes économiques existent, mais la démocratie, en gros, les gens se disent que c'est là. C'est nous qui pensons qu'il y a la dictature. Il n'y a pas de dictature en Russie. Mais il y a une faiblesse politique aujourd'hui. Peut-être parce que le système, je terminerai là-dessus, quand le président russe cherche comment régler la corruption, il dit, au lieu de laisser élire les gouverneurs, je les nommerai, comme ça je les surveillerai mieux. Bon, nous en concluons que c'est déjà la dictature. C'est une démarche, on peut dire que c'est juste ou pas juste, de nommer au lieu de faire élire. L'Empire a fait élire les gouverneurs pendant des siècles, et ça n'a jamais fait une dictature, et les gouverneurs ont eu une liberté d'action totale. Il est certain que le système russe, et ça sera mon dernier mot, le système russe, il a le sentiment d'avoir fait l'essentiel de la démocratie, c'est-à-dire d'avoir des institutions stables. Mais il ne sait pas très bien comment on fait à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut essayer de se maintenir ? Est-ce qu'il faut essayer de prévenir des catastrophes ? Ou est-ce qu'il faut à tout prix laisser faire, avec des petits coups d'autorité à droite et à gauche, pour que le système continue comme ça ? Et d'une certaine façon, ça entraîne une petite indifférence sociale. Je dirais que cette démocratie est suffisamment implantée en Russie pour que les gens trouvent que, bon, ça va, c'est là, et l'avenir ne pose pas de problème. Ça n'est pas tout à fait certain. Il y a, je n'y ai pas touché, parce que Michel El-Khoury m'a dit, vous répondrez bien à deux ou trois questions, je n'ai pas dit un mot de la Tchétchénie, je répondrai volontiers sur ce sujet, mais je dirais que ça ne fait pas partie du problème démocratique, ça fait pas partie de l'héritage du passé, mais néanmoins, ce système imparfait, il existe, il manque peut-être encore de confiance en lui-même, alors que la société a davantage confiance que ceux qui le dirigent. Non. C'est tout de même, ça montre que ça n'est pas transposable ailleurs, mais que même avec le pire point de départ, on peut arriver à construire quelque chose qui respecte les hommes et qui essaye surtout d'éviter le retour aux erreurs du passé. Je vous remercie de votre attention.
Merci madame. Je suis sûr que l'auditoire aura déduit de lui-même toutes les analogies. L'auditoire aura déduit probablement toutes les analogies, tous les exemples et même toutes les leçons qu'on peut tirer dans notre actualité. Et nous espérons que les idées populaires qui ont animé les Libanais tous ces derniers mois pourront contaminer nos voisins. Maintenant, je pense... Je souhaite, si des personnes souhaitent poser des questions, j'aimerais qu'elles soient transmises par écrit. Des hôtesses vont distribuer des feuilles, mais on n'a pas beaucoup de temps, il en faudrait deux ou trois, pas plus. Oui, madame Carole, derrière vous deux. Il y a une hôtesse qui va vous apporter un papier, là.
On fait un petit. Hein ? Non ? Eux non plus. Tout de même, il ne faut pas épuiser les gens. Voilà.
Mais
qui a demandé à parler à
yes.
Carole Lange. C'est une femme distinguée. Elle est très valable.
Bon, il faut que ça arrive là parce que. Voilà. Je ne vais pas répondre à 10 questions, je vais rassembler tout en 2 questions et comme ça. Bon, il faudrait qu'elle apporte.
Allez-y,
mademoiselle. Donnez-moi ça parce que moi j'ai l'œil. Non, donnez-moi tout. Bon, alors écoutez, 2 questions auxquelles il est facile de répondre. La première, est-ce que la peine de mort existe toujours en Russie ? Légalement, oui, mais il y a un moratoire sur la peine de mort. La Russie a décidé de se conformer aux normes internationales et elle a beaucoup de mérite, je dirais, à se maintenir à ce moratoire, car il y a beaucoup de violence. Mais le désir de tous les Russes, c'est que le pays observe ce qui est la norme européenne. Et c'est la raison pour laquelle... pour l'instant, je ne vois pas qu'on reviendra à la peine de mort. Alors, question, ça c'est un point important. Le procès Khodorkovsky ou les procès similaires seraient-ils des règlements de compte ? C'est plus compliqué. Je dirais qu'il y a 2 choses dans ce procès. Khodorkovsky était, c'est un homme tout remarquablement intelligent, brillant, séduisant, il a tout pour lui. Il est très riche, c'est un des hommes les plus riches du pays. Il a la société Yukos qui est évidemment, il n'a pas acquis ça, c'est pas un héritage et il n'a pas acquis ça avec la fortune que lui ont légué ses parents. Ça fait partie de ces fortunes qui se sont édifiées dans des conditions, spéciales de ce qu'on appelle la privatisation. Mais il a franchi la ligne rouge, c'est ça la vérité. C'est beaucoup plus qu'un règlement de compte. Vladimir Poutine, quand il est arrivé au pouvoir, a dit « Je ne toucherai pas à ces fortunes parfaitement illégales ». Parce qu'il faut que le capitalisme se développe. Et puis parce qu'une fois encore, la grande idée, c'est surtout ne réglons pas de compte. Mais j'y mets 2 conditions. La première, c'est que ces gens qui ont un capital extraordinaire ne s'en servent pas en politique parce qu'on ne peut pas avoir tout. L'argent mal acquis et le pouvoir en plus. Il faut à tout prix qu'ils restent à l'écart de la politique. Ça, c'est la ligne rouge qu'il a tracée. Et deuxièmement, il leur a demandé d'investir en Russie. Il a dit je ne vous reprendrai rien. Je ne vous demande pas de rapatrier les capitaux. Pour l'instant, le jour où vous aurez confiance dans le pays, vous le ferez. Mais en revanche, faites un effort, investissez en Russie, montrez que vous avez confiance dans le pays. Alors, et d'une certaine façon, la confiance renaissait. C'est tout à fait la vérité. Jusqu'à ce procès, il y a eu un vrai mouvement, petit mouvement de retour de capitaux, mais des investissements qui ne sont pas négligeables. Et je dirais même que moi, je connais des oligarques qui ont rapatrié leurs enfants qui étaient dans des universités étrangères, ce qui est tout de même un signe de confiance. Khodorkovsky a franchi la ligne jaune ou la ligne rouge, comme on veut. Il a une vocation politique. Et c'est très malheureux parce qu'en effet, ce garçon a les dons pour ça. Il est doué, il a fait énormément. Il a d'ailleurs financé à peu près tous les partis politiques. Et ça aurait été le candidat de 2008, ça c'est probable. Et là, il y a eu un coup d'arrêt. C'est le pacte passé avec ce monde des affaires que Vladimir Poutine... a considéré comme rompu, et c'est ce qui a conduit Khodorkovsky en prison, c'est un exemple qu'il fait. Alors ça a des inconvénients. La société, d'une certaine façon, a trouvé que c'était pas si mal, en ce sens que dans les tréfonds de la société, la partie de la société qui vit le plus durement, elle trouve que ces gens qui se sont enrichis avec le patrimoine national méritent de temps à autre qu'on leur tape sur la tête. Donc on peut dire qu'il y a une certaine satisfaction. Mais ça présente 2 inconvénients. Le premier, c'est que tous ceux qui détiennent le capital se demandent s'il n'y aura pas une pression sur le président pour aller plus loin et pour déprivatiser un certain nombre de choses. Ça affaiblit la confiance des investisseurs russes, ça c'est certain, et même des investisseurs étrangers. En ce sens, c'est une affaire qui est fâcheuse. Peut-être utile était préférable, mais je ne suis pas conseiller de qui que ce soit. Peut-être utile était préférable de faire ça de façon moins voyante. Et en tout cas, la confiscation de Yukos, c'est au profit de l'État, trouble les esprits. surtout ceux des investisseurs, et il faut que le capital russe continue à se développer. Maintenant, je voudrais vous dire un mot tout de même, c'est que ces privatisations qui ont été hantées, quand on regarde l'histoire du capitalisme américain ou l'histoire du capitalisme français naissant, les grands capitalistes n'étaient pas des enfants de cœur, hein. C'était tous des gens qui ont construit, édifié leur fortune dans des conditions abominables. Attendez, je vais... Alors, il y a une question à laquelle je veux répondre, parce que je suis une femme franche, je ne parle pas la langue de bois. Qui se cache derrière l'appellation ONG en Russie, société civile ou influence étrangère? Bon, la thèse russe aujourd'hui, une thèse qui sous-jacente, le président russe qui est un homme prudent ne dit rien, mais la thèse russe, c'est que les ONG sont les bras pacifiques des États-Unis pour écarter, je dirais, les anciens États amis de la Russie. Alors, ça, c'est, je ne dirais pas les choses comme ça. Je dirais que, incontestablement, pour avoir vu fonctionner, les ONG sont passées, qui sont très utiles. Beaucoup d'entre elles sont passées de l'idée, tout simplement, de jouer un rôle d'assistance, sont passées à l'idée qu'elles avaient une responsabilité politique. Il y a incontestablement une sorte d'idéologie des ONG qui s'est développée, et l'idée qu'il faut jouer un rôle et qu'il faut apprendre la démocratie aux gens. Nous sommes dans le cadre de cette vision des démocraties qu'on doit à tout prix importer et apprendre, dire aux gens, ça marche pas, ben on va vous montrer comment on fait. Dans certains cas, je dirais, dans le cas ukrainien, il y a, par exemple en Ukraine, il y a une diaspora ukrainienne formidable aux États-Unis, au Canada. Et il est certain que cette diaspora a aidé l'Ukraine, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. De la même façon que la Pologne a aidé l'Ukraine. Mais dire que c'est les États-Unis qui fabriquent ces révolutions, ça me paraît, il faut tout de même pas aller trop loin. Mais les ONG, c'est incontestablement, elles jouent un rôle. Et elles jouent un rôle parce qu'il y a tout d'un coup, elles s'épanouissent. Ça fait partie, c'est comme l'idéologie des droits de l'homme, etc. Nous assistons à une carte nouvelle dans les relations internationales et qu'on ne peut pas sous-évaluer. Et en Russie, il y a des ONG qui rêvent de pouvoir jouer ce rôle. Mais il faut être très pondéré dans les jugements. Ce que les États-Unis font, ça c'est vrai, ils essayent d'écarter la route du pétrole de la Russie, ça c'est vrai. Et pour la Russie, c'est assez traumatisant. Le pipeline, magnifique pipeline de Bakou à Tchéhan, et qui probablement va être prolongé de l'autre côté, vers le Kazakhstan, l'ambition de ce pipeline, c'est surtout que ça passe à côté de la Russie. On comprend qu'en Russie, les sensibilités soient grandes. Mais le personnel politique est assez prudent à ne pas porter des accusations trop directes. Bon, alors écoutez, là... Ah, c'est Monsieur Alexandre Nadjar, dont j'aime beaucoup la littérature. Monsieur Alexandre Nadjar, je ne lui ai pas répondu du tout, il me demande si la Tchétchénie, c'est l'occupation de la Tchétchénie. Alors je salue Monsieur Nadjar, parce que je le lis avec plaisir. Mais la Tchétchénie, est-ce qu'on peut parler de démocratie en Russie quand la Tchétchénie est occupée? C'est un héritage du système soviétique. Ça, en deux secondes, le camarade Staline, qui était un spécialiste des questions nationales, quand on a dessiné la carte la carte géographique administrative nationale de l'URSS, il s'est assis à côté de Lénine avec des atlas ethnographiques et des cartes géographiques, et on a fait un découpage de toutes les républiques et des républiques autonomes de manière à ce que, je dirais, à casser tous les mouvements nationaux ou à introduire dans chaque nation un problème national. Ça, il faut le savoir. Et la Tchétchénie, c'est pas seulement la Tchétchénie. Il y a à côté les Ossètes avec lesquels les Ingouches se disputent, etc. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux de territoire imbriqués un petit peu partout. C'est ce qui fait, d'ailleurs, cette carte fait que, à l'heure de l'indépendance, des indépendances en 1992, les Tchétchènes ont décidé qu'ils étaient indépendants, et les pauvres, ils ont beaucoup souffert, hein. Il faut dire qu'ils ont tous été déportés par Staline en 1942-43. Ça a été un génocide, ce qu'on leur a fait, ainsi qu'aux Ingouches, aux Ossètes, etc. À sept peuples du Caucase, au Balkar, au Karachay, ils sont sept peuples. Et Staline les a déportés parce qu'il voulait déporter les Ukrainiens. Comme il dit, les Ukrainiens sont des traîtres. Il prétendait qu'ils étaient collaborateurs. Il dit, je voudrais déporter tous les Ukrainiens, ils sont tellement nombreux que je ne sais pas où je les mettrais. Alors il a fait des exemples sur des petits. Les Tchétchènes sont tombés là-dedans. Et les Tchétchènes, ils ont le souvenir de la guerre du Caucase, ils ont tout ça. Ils ont voulu être indépendants. Et le problème, c'est la carte. Elle est très compliquée. C'est une question que Boris, ça a été le problème devant lequel s'est trouvé Boris Eltsine. que faire avec cette indépendance tchétchène? Probablement la bonne solution, c'était de leur donner l'indépendance. En effet, de dire allez-vous-en et on n'en parle plus. Mais c'est tellement imbriqué avec les voisins, avec la question des Ossètes, avec tout cela, qu'on n'a pas osé le faire. Et maintenant, c'est trop tard. Et il y a une situation qui est infernale là-dedans. Mais je dirais que c'est un problème hérité du passé et que la Russie mettra du temps à liquider. On ne sait pas très bien comment elle le fera, mais elle ne peut pas le liquider d'un coup. Il y a une population russe en Tchétchénie, il y a une population russe dans le reste du Caucase. Tout cela est beaucoup trop imbriqué pour qu'on puisse le faire. Une fois encore, il me semble que la bonne solution, ça serait de dire au revoir à tous ces gens, mais il y a une espèce de hantise des dominos de tout ce Caucase qui pourrait s'écrouler, et où il y a on se coupe la gorge. Vous savez qu'il y a eu, entre les Ingouches et les Ossètes, un coupage de gorge il n'y a pas tellement longtemps. Précisément, il faudrait d'abord redessiner la carte, il faudrait d'abord regarder tout cela. La guerre n'est pas une bonne solution, mais je dirais que ça n'a pas... Bon, pour dire la chose brutalement, les Russes ont beaucoup souffert de la guerre de Tchétchénie, parce que moralement, ça les trouble, mais en même temps, maintenant, ça fait partie des habitudes. Et même quand il y a des attentats, ce qui est frappant, quand les attentats arrivent à Moscou, 24 heures, ils sont troublés, encore qu'il y a eu un attentat dans le métro récemment, il y a quelques mois. Ça n'a pas duré 24 heures. 3 heures, ils ont été troublés, puis ils ont repris le métro. En Europe occidentale, il y aurait eu un choc épouvantable. Ils ont vécu, ils ont un tel passé derrière eux que d'une certaine façon, les choses leur paraissent moins terribles qu'à nos sensibilités d'enfants, de peuples plus gâtés. Bon, je crois que je ne peux pas tout faire. Hein. Ça, c'est la dernière question, et les autres me pardonneront. C'est sur la Syrie. Comme c'est un pays voisin, c'est à cette question que je réponds. La Syrie vient de tester des fusées prétendument achetées en Corée du Nord, mais on sait que la Russie en a récemment fourni au régime syrien. Peut-on y voir un soutien à ce régime? Bon, je dirais d'abord que les explications de la Russie sur les fusées à propos de la Syrie me rappellent étrangement les explications qu'on a tous lues il y a 40 ans à propos des fusées qui étaient à Cuba, des fusées soviétiques à Cuba, ce qui prouve que quand on fournit des moyens de destruction à un pays, en général, on a à peu près toujours les mêmes explications, car toutes les justifications sont du même type. Je ne dirais pas que c'est un soutien encore, c'est autre chose. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Bon, la Russie, vous savez, après 1992, la Russie s'est voulu, elle a eu pendant 3 ans une diplomatie européenne. Elle s'est voulu, pays d'Europe, tourner vers l'Europe occidentale à 200%. Et tout le reste, elle a ignoré. Et puis, l'affaire n'a pas très bien tourné. Pour plusieurs raisons. D'abord, les pays de l'Est de l'Europe, candidats à l'Union européenne. Pour ces pays, parce qu'ils ont souffert, il faut comprendre, c'est toutes les tragédies héritées de ce système soviétique qui en ce moment ressurgissent. Les pays de l'Europe de l'Est ont peur de la Russie en souvenir de ce que l'URSS leur a fait, de l'asservissement de l'URSS. Moyennant quoi, ils considèrent que l'Europe, c'est pour eux la protection. Et d'une certaine façon, leur entrée dans l'Union, qui se prépare depuis des années, l'élargissement de l'Union, apparaît à la Russie comme une sorte de manière de l'écarter de l'Union européenne. Enfin, ça fait de la Russie le pays extérieur à l'Europe, et pas le pays qui est tout de même un vrai pays européen. Il y a chez nos partenaires de l'élargissement récent, il y a une volonté absolue de faire là une frontière qui éloignera la Russie de l'Europe. Alors, il faut bien que la Russie se retourne vers quelque chose. Elle a, en plus, sur sa frontière méridionale, incontestablement, je reviens à la question du fameux oléoduc, elle a le sentiment que dans ses états, dans ses anciennes possessions de l'Asie centrale, jusqu'à Bakou et jusqu'en Géorgie, ces pays se tournent vers les États-Unis, où les États-Unis essayent là d'occuper une position, ce qui est logique. Nous sommes dans la logique, si vous voulez, on a vécu dans l'Est-Ouest, là nous sommes dans la logique des puissances. Les États-Unis sont un État très puissant, il n'y a pas de doute, et quand on est très puissant et quand on est le plus puissant, on a le désir d'organiser le monde à sa manière, et dans cette organisation, la Russie doit céder du terrain, même là où elle espérait avoir une zone d'influence. Alors ça explique pourquoi la Russie est en train de se tourner en politique internationale, ce qu'elle n'avait pas fait ces dernières années, vers un relais qui est son autre visage, son visage de pays qui est à la fois asiatique, musulman, etc. Et ça explique le rapprochement avec la Chine, avec le Japon qui s'esquisse, avec l'Iran, il y a une vraie carte iranienne qui est jouée en ce moment, avec l'Inde, et la Syrie, la Russie essaie de retrouver des positions dans ce Moyen-Orient qui lui tient à cœur, où l'Union soviétique a occupé des positions, et la Syrie, qui n'est pas tellement bien vue actuellement, des États occidentaux, ben, elle lui paraît une des cartes de relais. Mais je crois qu'il ne faut pas grossir les choses. C'est un relais politique que la Russie est en train de choisir. Elle essaye un petit peu de jouer dans là où elle a des possibilités d'action, précisément, parce que si elle veut rester une puissance, c'est un pays de 150 millions d'habitants, de 17 millions de kilomètres carrés, qui a une si longue histoire, qui a été une superpuissance, ne peut pas devenir un État indifférent ou un État moyen. C'est pas pensable. Elle a vocation à être une puissance, même si elle n'est plus une superpuissance, et elle cherche les lieux où elle peut pénétrer. Mais vous savez, ces souvenirs, l'Union soviétique s'était installée, si je peux dire, en Égypte, en Syrie, elle avait vendu un modèle politique en Égypte, en Syrie, en Irak et partout. Tout ça a très mal tourné et je ne crois pas, je pense que la Russie en garde elle-même un souvenir assez cuisant, même si ce n'était pas elle, c'était l'URSS. Simplement, elle n'a pas le choix en ce moment. Alors, n'ayant pas le choix, pour apparaître une puissance, pour dialoguer avec les États-Unis, il faut bien qu'elle ait, elle aussi, quelques pôles d'influence. Mais sa vraie politique, son vrai désir, c'est tout de même d'exister sur la scène européenne. Et ça, il faut le savoir. Je vous remercie. Et je demande pardon à ceux à qui je n'ai pas répondu. Je le ferai une autre fois. C'est une dette.